Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Le 21 octobre 2019, il y a exactement 2 ans, jour pour jour, on retrouvait à Courfèvre, petit village paisible du canton du Jura, les 2 corps sans vie de Christophe et son épouse Mélanie, dans la maison familiale qu'ils partageaient avec leurs 3 enfants. Ce drame a suscité une onde de choc dans toute la Suisse romande, une plaie profonde qui est loin d'être refermée. Onde de choc d'abord pour les enfants et les sœurs de Mélanie qui s'expriment dans ce reportage, car le drame de Courfèvre n'est pas un fait divers tragique comme les autres, c'est un féminicide. Christophe a égorgé son épouse avant de se suicider de la même manière. Et c'est le second traumatisme collectif, celui-là. Non seulement il s'agit encore d'un conjoint qui assassine sa femme, en moyenne un féminicide par mois en Suisse depuis 10 ans, mais en plus, Mélanie se savait en grand danger, elle avait porté plainte. Sa sœur Géraldine n'avait pas cessé d'alerter la police la semaine précédant le drame. Colère, révolte, incompréhension. Si nous avons choisi de lui consacrer une enquête complète, c'est précisément parce que le drame de Courfèvre suscite des interrogations légitimes sur la façon dont ce pays, la Suisse, gère les situations qui peuvent conduire au féminicide. 135 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 10 ans, c'est trop, beaucoup trop. C'est aussi pour dénoncer cette situation que la famille et les amis du couple ont accepté de témoigner auprès de notre équipe, Sophia Pekmez et Jacqueline Dubuis, pour faire avancer les choses, si possible, qu'ils en soient ici remerciés. Regardez.
C'est dans ce coin de Jura, à Courfèvre exactement, que vit Christophe Keller. Comme chaque lundi, ce fauconnier de 47 ans a prévu une partie de chasse. Mais apparemment, il change d'avis. En ce matin pluvieux du 21 octobre 2019, Christophe se dirige en fait vers son domicile. Dans quel état d'esprit est-il? On ne le saura jamais. Quelques instants plus tard, Christophe est mort, sa femme Mélanie aussi. Ces images sont inédites. Elles ont été tournées par la famille quelques jours après le drame. On est dans la maison du couple, au premier étage, là où tout s'est passé. Nous avons également obtenu les photos de la scène de crime. Sur celle-ci, prise dans la chambre d'un des enfants, on voit les vêtements que portait Christophe ce matin-là. Sur le lit, ceux de Mélanie. Ce mot d'adieu à l'écriture féminine se trouvait sur le bureau. « Je suis désolée de tout ça. J'espère que vous nous pardonnez un jour. Au revoir. » Dans le couloir, tout a été nettoyé, le parquet décapé. Le jour du drame, il y avait du sang et de l'eau partout. Dans la salle de bain, la baignoire est remplie d'une eau immaculée, mais du sang recouvre les parois extérieures et le sol. Quelques mètres plus loin, la chambre de la cadette de la famille. C'est ici que gisaient les corps. Le 21 octobre 2019, Christophe a égorgé Mélanie et s'est égorgé ensuite. Christophe et Mélanie Keller étaient des gens ordinaires. Mariés depuis 20 ans, 3 enfants, un couple sans histoire, comme on dit. Il l'a pourtant tué. Comme tous les autres, ce féminicide a bouleversé le pays. C'est la mécanique de cette mort annoncée que nous allons tenter de comprendre. Les 3 sœurs, son fils aîné et aujourd'hui une de ses nièces, se rendent sur la tombe de la Mela, comme on l'appelle ici. Le destin de Mélanie, qui repose aux côtés de sa mère, c'est celui des 135 femmes tuées depuis 10 ans en Suisse par leur conjoint ou ex-conjoint. En moyenne, ça fait une par mois. Un matin d'octobre, il y a 2 ans, il est devenu orphelin de père et de mère d'un coup. Kylian a vécu ce qu'aucun enfant ne devrait vivre. Mais comment pouvait-il imaginer que son père était une menace?
Je suis arrivé ici le lundi matin après être rentré chez ma grand-mère. Et puis j'ai essayé d'entrer par la porte, sauf qu'elle était fermée à clé.
Kylian fait le tour de la maison. Tout est verrouillé. Mais où est donc sa mère? Elle ne répond même pas à son portable. Il aperçoit soudain du sang couler de la fenêtre du premier étage. Inquiet, il appelle Ludivine, une des sœurs de sa mère.
J'ai dit, n'entre pas dans la maison, j'arrive. Je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je pouvais pas le dire, quoi. J'ai juste dit à Kylian, ne rentre pas dans cette maison.
Ludivine saute dans sa voiture et rejoint son neveu. Il y a urgence, elle le sait. À la vue du sang qui s'écoule du premier étage, elle force une fenêtre.
Et le premier réflexe qu'on a eu, c'est de monter tous les deux à l'étage. Puis à l'étage, on a découvert les deux corps de mes parents, totalement dénudés dans la chambre de ma petite sœur.
Comment mettre des mots sur cette vision d'horreur? Nous nous sommes procuré le rapport préliminaire d'autopsie de Mélanie. Il donne une idée du carnage qui s'est produit ce jour-là. En plus des multiples plaies sur tout le corps, il signale une plaie béante à bord net sur la face antérieure du cou, avec notamment section de la trachée, des artères carotides et de veines jugulaires bilatéralement. Il conclut que le décès est vraisemblablement consécutif aux lésions provoquées par un ou des instruments tranchants ou piquants et tranchants.
À ce moment-là, une envie de vomir. On ne comprend pas, on reste figé devant cette porte. On a envie d'aller voir s'il y a encore un peu de vie dans ses corps, mais on n'en a pas le courage. La peur, parce que mon père était plus proche de nous, puis je ne me voyais pas l'enjamber pour aller voir.
Je voulais aller. C'est ce que maintenant je regrette, puis je me pose encore la question après question. C'était le fait d'aller vers elle, parce que tout d'un coup, elle n'était peut-être pas morte. Hein. C'est ce que je me dis. Puis peut-être de savoir qu'elle n'était peut-être pas morte, que j'aurais pu aller vers elle, la prendre dans mes bras. Peut-être qu'elle était, elle était consciente encore, puis elle nous a entendu arriver, puis elle est partie. Ouais, elle était morte seule, quoi.
Une autre sœur de Mélanie arrive quelques minutes plus tard sur les lieux. Ce moment est gravé dans sa mémoire.
Je vois ma petite sœur qui est presque en train de s'arracher les cheveux en me disant « il l'a tué, il l'a tué ». Mon beau-frère qui est dans un état pitoyable. Mon autre sœur qui tourne en rond, qui ne sait plus quoi faire. Je vois du sang qui coule de la fenêtre. Je vois mon neveu qui hurle parce que ses parents sont morts. Et puis je vois des policiers qui sortent de la maison presque en vomissant, mais ils ne sont pas bien. Enfin, je vois c'est ça. Et là, j'ai hurlé.
Ce matin-là, un cri déchire le ciel au-dessus de Courfèvre. Certains habitants se souviennent avoir croisé Christophe peu avant le drame.
Ce matin-là, c'était un lundi. Je sors, j'ai la boîte aux lettres en face de la boulangerie Jobé. Et je vois Christophe qui semble... Ouais, il me semble qu'il a acheté un petit pain ou... un café, je sais pas. On se dit ciao, ciao, puis il est parti, quoi.
Allez, hop, on bouge. Allez.
Et puis on tombe à nouveau sur Christophe vers 7h du matin. Cette fois, il nourrit ses chiens, placés en pension chez son voisin, Bernard Gredel.
Allez, viens. Sur le coup de 8h, le père à Christophe, André, me dit... Enfin, nous dit, Christophe vient chasser avec nous, mais il aura un peu de retard. J'attends Christophe au véhicule, au bivouac. Il n'arrive pas. Je prends mon portable, j'appelle ma compagne et je lui dis, Christophe, il est venu prendre les chiens. Puis elle me dit, oui, je l'ai vu, il les promenait le long de la piste cyclable. Et ensuite, elle me dit, voilà, le bus est toujours là devant la maison.
Halte à la boulangerie, promenade des chiens. Ce matin-là, c'est un homme en apparence normale qui va tuer sa femme. Christophe a tué Mélanie. Ça s'appelle un féminicide. On parlait autrefois de crime passionnel. parfois il ponctue un parcours de violence conjugale, parfois pas. Pas un jour sans que Courfèvre ne se souvienne de Mélanie, pas une semaine sans que cette problématique ne fasse la une des journaux. Les féminicides sont une question sociétale, analysée comme telle.
Les meurtres conjugaux ont toujours existé. Ce qui change véritablement, hein, c'est la tolérance qu'on a sur ces actes. Et c'est là qu'on a vraiment un changement de curseur, probablement hein, aussi dans la lignée ben justement de tous ces mouvements féministes, du MeToo.
La société ne supporte plus l'idée qu'un homme s'en prenne à sa femme justement parce que c'est une femme, c'est-à-dire considérée comme un genre mineur.
Ce qui change, c'est la façon dont on se le représente, c'est la façon dont on le définit, c'est la façon dont on dit c'est acceptable ou pas, hein, ça fait partie de la vie de couple ou pas. Il est normal qu'un mari corrige sa femme. Non, aujourd'hui, il n'est plus normal qu'un mari corrige sa femme.
Et pourquoi ce sont toujours les mêmes qui frappent ?
C'est très souvent, effectivement, plus les hommes qui tuent les femmes. Je pense qu'il est difficile d'avoir une explication simple à cela. Je pense qu'en effet, il y a des aspects qui sont sans doute des aspects liés à la dimension psychologique, il y a sans doute des aspects qui sont liés à la dimension biologique, il y a certainement des aspects qui sont liés à la dimension sociale, et au fond, probablement que c'est l'ensemble de ces différents domaines qu'il s'agirait d'interroger pour avoir une réponse véritablement à cette question-là, de savoir qu'est-ce qui fait que ce sont plutôt les hommes qui vont extérioriser la violence alors que les femmes auront parfois plutôt tendance à intérioriser. Tuer quelqu'un d'autre, chacun d'entre nous, le sentiment que jamais on ne pourrait commettre un acte comme celui-là, en plus sur la personne qu'on aime ou qu'on a aimé, ça paraît d'autant plus incompréhensible.
Le 21 octobre 2019, le paisible village de Courfèvre se réveille dans l'effroi.
Alors c'est clair que ça a fait un boom dans le village. Des histoires après, il y en a eu tant que vous voulez. Hein. Ils se sont tués, il a coupé la tête, il a coupé les bras, il a... Oui, voilà, c'est des choses. Après, ces gens ici, ils aiment bien parler. On est dans des petits villages, hein. On sait tout. Puis on sait peut-être rien, quoi.
Courfèvre et ses 1600 habitants. Courfèvre, où la vie est rythmée par la chasse et les apéros. Ici, plus de postes, plus de banques, plus de restaurants. Le village a perdu de sa superbe depuis la fermeture de la célèbre usine de vélo. Même si l'endroit manque un peu de panache, tant pis. Les Keller s'y plaisent et les gens apprécient le couple.
Beaucoup d'attention entre eux. Un couple serein, je veux dire. Solide, quoi. Solide, avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de temps passé ensemble. C'est quand même des gens qui... Halloween, ils étaient là, en famille. Fête du village, on les voyait en famille. Barlotta, ils venaient en famille. Dès qu'il y avait quelque chose qui bougeait par ici, ils étaient tout le temps en famille.
Mélanie est enjouée et rigolote. Elle ne refuse jamais une fête avec les siens. Christophe est décrit comme serviable et sérieux. En 2015, la famille affiche son bonheur sur cette une de Migros Magazine. C'est que le couple est connu dans la région. Christophe est un des rares fauconniers de Suisse et il a racheté un zoo dans le coin, ce qui lui vaut la faveur des médias.
Et le lynx, c'est un animal qui est extraordinaire à venir voir. Vous avez pu faire l'expérience. Donc, comme il est en captivité également, il cherche, il regarde, il est confiant, il est très doux. Et c'est un animal fantastique à voir.
Bonheur, notoriété, joie de vivre. En fait, tout ça, c'était du bluff. Pour la première fois, les enfants acceptent de raconter ce qui se passait réellement derrière les murs de leur maison. C'est une parole rare dans les médias. Elle nous est livrée chez Christelle, la sœur aînée de Mélanie, qui a recueilli Léna, 18 ans, Ticia, 15 ans, et Kylian, qui a 20 ans aujourd'hui.
Kylian, t'arrives à couper des oignons, peut-être ?
Léna ne s'est jamais exprimée publiquement. Elle choisit de le faire dans ce reportage.
C'est vrai que... Ben, c'est pas facile, on va dire. C'est pas facile, et puis ben, faut s'ouvrir. Et donc, on va dire, c'est peut-être la première fois que j'arrive à m'ouvrir, à en parler. Parce que ben, y a des choses que j'ai jamais parlé. Et puis donc, c'est peut-être l'une des premières fois que je peux aussi donner mon ressenti. J'ai peut-être eu besoin aussi de m'ouvrir, et puis voilà pourquoi je le fais.
Alors Léna raconte.
Quand on rentrait pour prendre le souper, l'ambiance était très froide. Il y avait beaucoup d'énervement de mon père vis-à-vis à ma mère. Il lui disait assez souvent, tu sers à rien, tu fais pas les choses correctement, tu pourrais faire mieux, t'es incapable, tu sais rien faire dans la vie, la seule chose que tu sais faire, c'est t'occuper de tes enfants puis faire à manger. Et encore, des fois, c'est moi qui dois faire à manger. Il y avait plein de trucs comme ça. Il était très dur vis-à-vis de ma mère.
On avait plus souvent des engueulades. On n'était plus forcément très content de rentrer à la maison, autant mes sœurs que moi. Les amis commençaient à disparaître, les amis de mes parents, parce qu'ils voyaient très bien que ça allait pas, donc ils voulaient pas venir se mêler à ça.
Christophe exerce en plus un véritable contrôle sur sa femme. Mélanie ne peut pas vraiment travailler. Mélanie n'a pas de carte de crédit, ni de permis de conduire. En fait, Mélanie est complètement sous emprise. Elle subit sans rien dire. Mais pourquoi ce couple est-il à la dérive ? L'usure peut-être, mais en réalité, c'est le zoo. Le grand rêve de Christophe est un fiasco commercial qui engendre des dettes phénoménales. Le couple sombre en même temps que le projet.
Toutes les humiliations que mon père faisait subir à ma mère, ça devenait tellement insupportable pour mes sœurs et moi qu'à un moment donné, j'ai menacé de quitter la maison s'il ne se calmait pas. Et puis, il m'a menacé de mettre fin à sa vie parce que vivre sans ma mère, il n'y arriverait pas. Ma mère nous aurait forcément suivis.
Kylian et Léna se racontent volontiers, mais leur débit linéaire, presque sans affect, interpelle.
Ce sont des enfants qui sont très discrets, qui ne parlent pas, qui ne montrent pas leurs émotions. J'ai l'impression que c'est trois bombes à retardement. C'est trois bombes à retardement parce que personne n'est suivi, ils ne veulent pas.
Difficile pourtant d'imaginer qu'ils n'aient pas besoin d'aide. Non. Quand on leur demande quelle image ils gardent de leurs parents, leur douleur se révèle.
La seule image qui me revient comme ça sans réfléchir, c'est le fameux lundi matin dans cette chambre. Elle est claire, elle est précise. J'ai jamais réussi à l'oublier. Et je pense que je pourrais jamais l'oublier. C'est certainement pas la meilleure image, mais c'est celle que je retiens.
Même blocage pour Léna.
Je vois ma mère dans son cercueil, que je suis auprès d'elle. Et mon père de loin, parce que j'ai pas réussi à aller le voir. C'est tout. J'ai pas d'autres images, en fait, qui me reviennent.
Pour la première fois depuis le drame, Léna et Kylian replongent dans leurs photos de famille. Aujourd'hui, ils retrouvent un cadre sécurisant chez leur tante. Elle aussi a dû faire son bout de chemin.
Avant le 21 octobre, je vivais toute seule avec mon fils, dans un 3 pièces et demi. Ben, ce qui est arrivé est arrivé. Et puis nos vies là, ont commencé d'être complètement chamboulées. Autant celle de mon fils que moi, lui qui était fils unique. On ne sait pas comment on fonctionne. Voilà, moi je ne savais pas que Ticia n'aimait pas les tomates. Voilà, qu'elle adorait les cordons bleus et puis les croquettes. Mais, Ouais. Donc ça, c'est des choses que on a appris à se connaître et c'est un chamboulement. Même des petites choses comme ça peuvent déstabiliser tout le monde.
Chacun trouve peu à peu sa place et une forme d'équilibre. Les enfants s'appuient sur la famille, mais aussi sur des amis, comme Sylvaine et sa fille Laura May. Sylvaine était voisine des Keller, auxquels elle est fortement attachée par des liens quasi familiaux.
Moi, j'ai du mal encore à y croire.
Mais bon, ça y est.
Elle n'arrive pas, elle. Elle ne veut pas la laisser partir. C'était sa Mélanie, c'était son amie, sa petite sœur. Elle a beaucoup de mal.
Des fois, quand je fais l'apéro, je mets un verre à Mélanie pour boire l'apéro avec elle. Mais je bois son verre.
Tu te souviens de ça? Quand elle faisait la débile avec ses os, ils m'ont confirmé à son petit.
Mère et fille n'ont rien oublié des apéros et des fous rires avec les Keller, même si les deux femmes n'étaient plus dupes depuis longtemps.
Puis là, quand ils étaient les deux.
Quand y avait du monde qu'on connaissait pas forcément, donc en public justement, ils voulaient montrer que c'était un couple parfait, ils s'entendaient bien, c'était tout sourire, on s'entend bien. Et une fois que c'était avec des personnes plus dans l'intimité, dans la famille, c'est là que il avait plus de filtre avec elle. C'est à ce moment-là qu'il montrait qu'il était vraiment envers elle. Il la traitait comme une merde. C'était vraiment une sous-merde. Et puis je pense que moralement, pour elle, ça la tirait en bas, quoi, c'est clair.
Mélanie subissait de la violence psychologique, verbale. Cette maltraitance, connue des plus proches, aurait-elle dû résonner comme un signal d'alerte?
On a quand même cette idée assez... classique, hein. Il faut saigner pour être victime de violence conjugale. Mais les insultes, la façon de rabaisser systématiquement, d'humilier, amènent à des formes d'escalade, peut-être ou peut-être pas, hein, mais qui peuvent en tout cas nous amener sur une pente glissante.
Comment glisse-t-on de l'amour à la mort? La majorité des auteurs de féminicides sont pourtant des hommes ordinaires.
Christophe, il avait deux facettes. Le côté rigolo, où c'est qu'il était super serviable. Dès qu'on avait un truc, on pouvait lui demander, il n'y a pas de problème et tout. Et puis, de l'autre côté, cette froideur en lui. C'est ce côté où c'est qu'on avait l'impression qu'il n'avait aucun sentiment. Rien ne pouvait le toucher, rien ne pouvait l'atteindre, en fait. Et puis, ce côté où c'est qu'il voulait aussi tout régenter, c'était... Et puis sa vérité, c'était sa vérité. Elle était... Les autres, non. J'ai un exemple, c'était tout simple. C'était à mon anniversaire, il y avait mon père, il y avait ses parents à lui et tout. Et puis tout d'un coup, Mélanie va mettre quelque chose à la poubelle. Et puis là, il se lève, furax. Oui, c'est pas comme ça qu'on range une poubelle. Alors il a tout ressorti, puis il a montré comment mettre dans la poubelle. Comment ranger une poubelle. Et là, je lui ai regardé, j'ai dit, si t'as des choses à ranger, c'est dans ta tête. J'ai dit, il faut aller voir quelqu'un.
Il avait, je sais pas comment expliquer, mais il avait ce regard, cette autorité, ce quelque chose où c'est qu'on se dit non, réponds-y pas parce que... Pas qu'il allait nous faire du mal, hein, loin de là, mais que... Ou si tu l'ouvres, tu t'en ramasses, quoi.
On nous décrit un Christophe autoritaire et rigide, de là à en faire un meurtrier.
Je stoppe les gens qui parlent mal de mon père parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils disent que c'est un tueur. Et pour moi, c'est pas un tueur. Pour moi, il était malade.
C'est vrai qu'il n'existe pas, au fond, de profil type. Et l'immense majorité des personnes qui en viennent à tuer leur conjointe, leur épouse, sont pas des personnes qui étaient connues pour avoir des troubles psychiatriques. Ce sont pas des personnes qui étaient suivies en psychiatrie, ce sont pas des gens qui avaient des difficultés, ce sont pas des gens qui prenaient des traitements. La plupart du temps, il y a rien de cela. Donc, manifestement, ça n'est pas tellement les situations dans lesquelles la maladie mentale est en jeu qui peut aboutir à ce genre de situation-là.
Christophe n'est sûrement pas fou, mais il est infidèle. retrouvons Yvan Vico, le boucher de Courfèvre connaît le fauconnier depuis une quinzaine d'années.
Un jour, Christophe, il est venu à la boucherie et il m'a dit « Oh, je suis pas bien ». Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il avait, puis il m'a commencé à me raconter qu'il a eu une aventure avec, avec une femme. Et puis qu'il voulait quitter Mélanie pour s'installer avec tous les gosses. Et puis ses gosses à lui, ses gosses à elle, puis aller vivre tous ensemble. J'ai essayé de le persuader que, bah, qu'il reste quand même avec Mélanie et puis que c'est peut-être un passage, peut-être qu'elle va y pardonner. Puis en effet, une semaine après, 10 jours après à peu près, il est venu, il était tout heureux que Mélanie lui avait pardonné, quoi. Après, voilà, personnellement, c'est des pardons, je ne sais pas jusqu'où ça va.
Ça n'a pas été très loin, apparemment.
Moi, je pense que le jour où elle a vraiment plus envie de lui et puis de vivre avec lui, je pense que c'est le jour où il est allé à gauche, où il a eu une maîtrise. Et puis ça, elle l'a jamais trop accepté, ce qui est normal. Hein. Elle m'a dit, j'ai envie de divorcer. Plusieurs fois, elle me l'a dit, mais une année avant même. Puis on lui disait, fais-le. Mais elle n'a jamais osé. Elle avait peur de pas se débrouiller seule avec ses enfants.
On y va.
Ça ne lâche pas, rien, Olivier.
C'est 10 minutes.
Oui.
On va la voir.
Ouais.
Où là-bas?
Non, mais j'ai trop froid. Hein.
Allez.
Pendant de longs mois, Mélanie tergiverse. Elle veut divorcer, puis ne veut plus. Et enfin, elle le franchit, ce cap. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019. Mélanie annonce à son mari qu'elle veut le quitter. C'est 9 jours avant le drame. Christophe ne comprend pas. Dans la soirée du lendemain, samedi 12 octobre, il exige des explications. Il est perdu. Mélanie martèle qu'elle ne l'aime plus. Et soudain, volte-face. Le fauconnier dit à sa femme accepter la rupture à condition d'avoir encore 2 rapports sexuels avec elle. Étrange négociation.
Parfois, à l'annonce d'une rupture, il va pouvoir y avoir encore beaucoup de choses qui vont être de l'ordre d'un espoir qui subsiste. Je vais tout faire pour essayer de la reconquérir ou de la convaincre de rester.
Était-ce l'intention de Christophe ce soir-là? Les événements qui vont suivre marquent un tournant décisif dans l'histoire du couple. Prétextant un malaise de Léna qui fait la fête dans un village voisin, Christophe propose à Mélanie d'aller chercher leur fille. Nous sommes le dimanche 13 octobre à 2h du matin. Nous avons reconstitué le déroulement des faits qui vont suivre sur la base du dossier d'instruction. À la sortie du village, la voiture prend une direction inattendue. Mélanie s'en étonne. Christophe brandit soudain un pistolet. Sa femme ignore qu'il est factice. Après s'être arrêté à la lisière d'un bois, Christophe pousse Mélanie à l'arrière. Il pose son arme au sol, lui ligote les poignets, puis la détache. Le couple a un rapport sexuel. Mélanie et Christophe repassent ensuite sur les sièges avant pour discuter et fumer, et cela pendant plus d'une heure. Puis le couple a un second rapport sexuel. Il regagne son domicile vers 5h du matin. Après ces événements, les choses s'accélèrent. Le jour venu, Mélanie profite de l'absence de son mari pour se précipiter chez Sylvaine. Son amie habite juste en face, dans cette maison blanche.
Le dimanche matin, j'étais chez moi, je regardais la télé, puis ma terrasse était ouverte, puis elle est rentrée avec Tistia, en tremblant, mais de tout son corps. Hein. Dans l'état où elle était, je ne l'avais jamais vue comme ça. Trembler comme ça, pleurer, puis j'ai demandé ce qu'il y avait, puis elle me dit, il faut appeler la police, puis j'ai dit, pourquoi? Il m'a violée, puis j'ai dit, quoi, raconte-moi, puis elle m'a raconté l'histoire, et puis
Bah, j'ai appelé la police.
Mélanie est amenée dans les locaux de la police cantonale à Delémont. Ce dimanche 13 octobre 2019, une semaine avant sa mort, elle dépose plainte contre Christophe pour viol. C'est la première fois en 20 ans de mariage que Mélanie oppose un non ferme à son mari. Quelques heures plus tard, après avoir confisqué ses armes à feu, la police embarque Christophe. Sylvaine filme la scène depuis le premier étage de sa maison avec son portable.
Putain.
Voici les images inédites de l'interpellation de Christophe devant son domicile. Auditionné à son tour, Christophe explique avoir emmené Mélanie dans les bois pour avoir enfin une vraie discussion. Informés par leur mère des faits de la nuit, les enfants sont dévastés.
Ben moi, je comprenais pas. J'ai dit, c'est pas possible, il te fera jamais de mal. Je sais qu'il t'a jamais touché. C'est vrai que verbalement, il était très affreux vis-à-vis de toi. Mais c'est vrai que physiquement, on l'a jamais vu te taper, te faire vivre des choses affreuses.
Je pensais pas qu'on était arrivé à un moment où ça a dégénéré à ce point. J'arrivais pas à croire ce que ma mère me disait par téléphone. Et quand je suis rentré et j'ai vu son état, j'ai très bien compris qu'elle avait subi une horreur, et puis j'arrivais pas à croire ce que mon père me disait, parce qu'on avait deux situations différentes, bien sûr. On essayait de nous faire tomber dans le panneau pour retomber vers lui, mais j'arrivais pas. Pour moi, c'était trop compliqué à faire un choix, enfin pas un choix, mais à défendre l'un ou l'autre.
Quelles sont les versions en jeu ? Nous avons eu accès aux procès-verbaux d'audition et un constat s'impose. Les faits ne sont pas contestés, mais les interprétations de Christophe et Mélanie sont diamétralement opposées. En voici quelques exemples.
J'ai été victime de menaces et j'estime que les actes sexuels que j'ai subis l'ont été contre ma volonté.
Elle était tout aussi active que moi lors de ce rapport. Nous ne nous sommes rien refusés l'un l'autre.
Mélanie s'est aussi dite victime de menaces.
Il pointait le pistolet sur moi. Il m'a regardé et m'a dit « Il y en a deux pour toi et deux pour moi. » Il y avait de la méchanceté et de la chiasse dans ses yeux.
Je lui ai dit « Il pourrait y avoir deux balles pour toi et deux balles pour moi. » Mais j'ai précisé tout de suite après que cela n'était pas le cas et qu'elle ne risquait rien et que je ne voulais pas la tuer.
Quant au bilan de cette soirée,
j'ai laissé faire et je ne me suis pas opposée physiquement ou verbalement car j'avais trop peur. J'avais peur qu'en lui disant non, cela dégénère car il avait toujours l'arme à côté de lui.
Elle m'a dit avoir eu énormément peur, mais qu'elle était contente car on avait pu discuter et que je lui avais fait du bien mentalement avec ce clash.
Le policier en charge de ces auditions relâche Christophe, qui rentre chez lui. Mélanie et les enfants s'installent à l'hôtel à Delémont. Le lendemain, Christophe est auditionné par une procureure cette fois. Il confirme sa version de la veille. La magistrate renonce à emprisonner Christophe, mais lui impose des mesures de substitution. Le fauconnier a interdiction de se rendre au domicile familial et ne peut plus contacter sa femme. Ces mesures ne seront pas supervisées. Christophe s'installe le soir même chez ses parents. Il se montre inquiet d'un éventuel divorce. « Je l'aime trop », dira-t-il à son père. Pour Christophe et Mélanie, le compte à rebours a démarré. Nous sommes 7 jours avant le drame. Que s'est-il passé dans cette dernière semaine de vie du couple ? Nous en avons retenu 4 dates. Lundi 14 octobre, au lendemain de la plainte pour viol, Géraldine contacte le ministère public.
J'étais sûre qu'il allait passer à l'acte. Et moi, quand j'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, comme elle maintient sa plainte, il va la tuer. Il va la tuer. Et puis on m'a répondu, votre jugement, il est faussé parce que vous êtes la sœur de machin, et puis voilà. Et j'ai dit, vous le laissez en liberté, il n'y a rien qui dira que... J'ai dit, à part quand on retrouvera ma sœur morte, j'ai dit, voilà. J'ai dit, et vous le laissez comme ça en liberté, sans même un fil pour le retenir, rien du tout.
Pendant toute la semaine, Géraldine harcèlera les autorités. Toujours ce 14 octobre, Mélanie écrit au policier qu'elle n'est pas tranquille. Il lui conseille le 117 en cas de problème.
Elle nous a clairement dit, elle, donc ma maman, que la police n'avait pas retenu qu'elle était en danger et de ce que mon père avait fait vis-à-vis d'elle. Elle nous a dit, ils m'ont pas écouté. Pour elle, c'était pas pris au sérieux, c'était j'ai été portée plainte, pour rien.
Mercredi 16 octobre, Mélanie et ses enfants quittent l'hôtel de Delémont.
Puis le mercredi matin, elle m'a envoyé un message pour aller la rechercher. Alors je suis allée la rechercher et puis je l'ai ramenée à la maison.
Elle est dans quel état d'esprit à ce moment-là,
Mélanie ? Elle allait, ça allait. Mais je pense qu'elle avait peur intérieurement. Parce que j'y ai encore dit, tu fermeras ta porte à clé. Et puis, le mercredi soir, on est allé manger la basse-cour. On a passé une super bonne petite soirée. La seule que j'ai passée avec elle, dans un bistrot, depuis les années que je la connais.
Voilà, santé.
Merci, santé, merci.
Et puis, on a discuté un peu de l'avenir, et puis... qu'elle avait quand même peur, mais on n'a pas trop abordé ce sujet-là.
Mélanie a-t-elle eu soudain un coup de blues ? La fille de Sylvaine les rejoint plus tard dans la soirée.
J'ai jamais vu Mélanie comme ça.
C'est-à-dire ?
Elle était éteinte, elle était triste, elle était tremblante, elle était vraiment pas bien.
Vendredi 18 octobre, Christophe n'est pas en forme. Il s'isole, il rumine. Inquiet, son père André, aujourd'hui décédé, pense appeler la police, mais y renonce finalement. On retrouve Bernard Gredel, l'ami et surtout le confident d'André. Bernard se souvient de l'inquiétude du père de Christophe au moment de la plainte pour viol.
Ce qu'André a dit, et je l'ai entendu plusieurs fois, mon fils, il est fou, faut l'enfermer.
Bernard s'en étonne. Pendant cette dernière semaine, il voit régulièrement Christophe qui lui a laissé ses chiens en pension. Et il ne le trouve pas particulièrement perturbé.
La seule chose qu'il m'a dit un jour, j'ai la chiasse, excusez-moi de l'expression, j'ai peur de devoir aller en prison. Voilà, ça c'est la seule chose qu'il a exprimée de manière négative sur ce qui pourrait lui arriver. Et il était là, il était calme, à part peut-être qu'il a quand même une fois exprimé le fait qu'il était désœuvré. C'est vrai qu'avant ces problèmes, c'est un gars qui avait à s'occuper de bestioles qu'il détenait chez lui, des oiseaux, une fouine ou je ne sais plus quoi. Il avait un parcadin au village, il avait un peu... lui-même ce sentiment de dire « je m'ennuie ». Quoi.
Quelle étrange semaine où Mélanie a peur sans vraiment l'exprimer, où Christophe fait peur sans être franchement menaçant, une semaine où l'entourage est tendu sans réellement savoir pourquoi. Dimanche 20 octobre, veille du drame. Christophe n'a plus accès au domicile familial depuis 6 jours. Il boit un verre avec sa fille Léna et se renseigne sur l'organisation familiale du lendemain. Quels seront les horaires ? Quand Ticia part-elle à l'école ? Où mange-t-elle à midi ? Toutes ces questions inquiètent sa fille.
Quand je suis rentrée le soir, que ma mère elle m'a dit « mais comment ça s'est passé ?» Et là, j'ai directement dit à ma maman « mais est-ce que t'as fait changer les serrures ?» Est-ce que papa a toujours les clés ? Puis elle m'a dit, ça devrait venir dans le courant de la semaine, que le serrurier devrait venir changer toutes les portes.
Le serrurier ne passera pas, et depuis, Léna porte sa faute.
Je dis, c'est à cause de moi que mon père a tué ma mère. C'est moi qui lui ai dit à quelle heure je partais de la maison, que ma sœur, elle partait à cette heure-là, que ma mère était seule à la maison, que mon frère, ben, il savait qu'il dormait chez ma grand-maman et puis qu'il rentrait aux alentours de 9h. Donc je me suis toujours dit, c'est de ma faute.
Il y a de la culpabilité chez Léna et beaucoup d'autres émotions.
C'est vrai que lorsqu'un drame de cette nature survient, ça crée souvent hein, chez les proches, chez les amis, la famille, les voisins, le village, si les choses se passent dans un village, ça, un sentiment très fort enfin, d'incompréhension, mais souvent déjà de stupeur, de stupéfaction. Il y a quelque chose qui est très difficilement pensable. Probablement d'une part parce qu'on est là confronté à un acte d'une extrême violence. Et en même temps, cet acte, eh bien, il a lieu dans l'intimité du couple et dans l'intimité de ce qui est, d'une certaine manière, la chose la plus banale pour tout le monde, c'est-à-dire la vie de couple. En théorie, au fond, tout le monde sait que ce genre de choses, ça peut arriver. Mais au fond, que ça arrive à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qui est proche, à quelqu'un dont jamais on aurait pu penser que quelque chose comme ça arrive, alors ça ébranle, au fond, des certitudes. On peut avoir l'impression, dans ces moments, de ne plus connaître les gens. On pensait les connaître, et tout à coup, il arrive quelque chose qu'on n'avait pas forcément pu imaginer ou anticiper.
La mort de Mélanie, puis celle de Christophe, était-elle évitable ? Impossible à dire. La famille de Mélanie, en tout cas, ne peut en rester là.
J'ai eu de la tristesse, de la colère, de la rage, de l'envie de tout péter. Je l'avais dit et on m'a pas écouté, quoi. Et moi, pour moi, ça c'est un truc, ça me restera toute ma vie là, quoi. Parce que putain, ils ont pas bougé leur cul, quoi. Ils ont rien fait.
Quelques semaines après la mort de Mélanie, sa famille dépose plainte pour homicide par négligence contre l'inspecteur de police et la procureure. L'accusation sonne comme un coup de tonnerre dans la région. Frédéric Hénard défend les intérêts des proches de Mélanie.
La famille de la victime attend qu'une autorité judiciaire reconnaisse que la victime est décédée de violences conjugales dans des circonstances qui étaient immanquablement évitables. En d'autres termes, elle considère que les autorités ont mal réagi.
La plainte s'appuie sur deux éléments principaux. Le premier concerne les relations entre le couple et l'inspecteur de police.
L'auteur d'un viol quand même, avec une arme, même si elle était factice, a été entendu par un pote inspecteur qui n'a pas jugé utile de se récuser. Et on sait assurément qu'il n'y a pas eu un vouvoiement, mais qu'ils se sont tutoyés.
C'est vrai, le couple et le policier se connaissaient. Sur cette photo, l'inspecteur pose avec sa femme, au mariage de Christophe et Mélanie précisément. Il est vrai aussi qu'ils ne se côtoyaient plus depuis longtemps. Autre interrogation de la famille. Pourquoi Christophe n'a-t-il pas été placé sous les verrous alors qu'il était accusé de viol?
On sait assurément que jusqu'à il y a 15 ans, les violences conjugales se résolvaient par une petite tape sur l'épaule. On disait à monsieur, c'est sûr qu'elle a dû vous énerver. Et puis à madame, ben, allumez le pas avec vos crises. Et ça, c'est quelque chose qui est révolu. C'est révolu. Et cette manière d'appréhender les choses-là est erroné et a eu comme conséquence directe, j'en suis convaincu, le résultat.
Un policier et une procureure accusés d'homicide par négligence, c'est inédit. Nous avons tenté de leur donner la parole. Cela a été refusé au motif que l'affaire est en cours. Par mail, la présidente du gouvernement jurassien a elle aussi refusé de s'exprimer. Elle précise toutefois qu'un projet de loi concernant la lutte contre les violences domestiques est en phase de rédaction. C'est dans le canton de Neuchâtel que nous trouvons la personne qui accepte de nous parler. Il s'agit de Pierre Aubert. Le magistrat neuchâtelois intervient dans cette affaire en qualité de procureur extraordinaire, puisque la famille de Mélanie a demandé que sa plainte ne soit pas examinée par un magistrat jurassien. Pierre Robert doit en fait déterminer si le policier et la procureure ont agi conformément à la loi, sans prendre en compte la fin de l'histoire, c'est-à-dire la mort de Mélanie et de Christophe. La mission est délicate. Le procureur extraordinaire fait un travail minutieux et une année et demie plus tard, il rend sa décision.
J'ai estimé qu'effectivement, on ne pouvait pas reprocher une infraction ni aux policiers ni à la procureure, une infraction qui aurait été un homicide par négligence. L'idée qui a prévalu est qu'on ne peut pas engager sa responsabilité pénale par la décision qu'on prend. Le fait de se tromper, par exemple le fait de condamner un innocent, ne peut pas conduire à une condamnation pour séquestration. La qualité des auditions, le temps consacré à ces auditions montrait quand même que les choses n'avaient pas été prises à la légère. C'est des auditions qui avaient duré 3 ou 4 heures.
L'ordonnance de classement souligne que Christophe n'a pas manifesté, lors de son audition justement, de signes permettant de prévoir l'issue de l'affaire. En fait, les autorités ont cru quelqu'un de crédible. L'ordonnance insiste également sur l'impossibilité d'affirmer que le drame s'est produit parce que Christophe a été laissé en liberté. Quant aux relations entre le policier et le couple...
Je pense qu'en l'occurrence, ça n'a joué aucun rôle. L'inspecteur a... Si cela avait joué un rôle, ça l'aurait plutôt joué dans son sens inverse où, connaissant mieux l'épouse que le mari, il aurait dû prendre plus fait et cause pour elle que pour lui. Mais je pense que cette question est un faux problème.
Évaluer la gravité des menaces qui pèsent sur les victimes. Il importe...
La famille a fait recours de la décision de classement.
La question, c'est qu'on ne protège pas, au jour d'aujourd'hui, la Suisse ne protège pas ses femmes. On nous a dit clairement que, bah, par exemple, voilà, ici, bah, voilà, c'est le canton du Jura, voilà, tout le monde se connaît, tout machin, et puis voilà, on dit que ça va bien se passer, et puis voilà. Puis on se dit, dans le Jura, ça n'arrive pas. Ben si.
Avec 98 infractions en 2019, les violences conjugales dans le Jura se situent en effet en dessous de la moyenne nationale. Reste que les féminicides se produisent partout, en ville comme à la campagne. Pour combattre ce fléau, la Suisse a encore du chemin à faire.
Il faut travailler avant la situation fatale où il y a eu meurtre. Et en fait, c'est tout ce qui se passe avant qui est important. Et donc, il faut absolument former tous les intervenants qui interviennent à la fois auprès des victimes, mais aussi des auteurs de violences conjugales. Et donc, évidemment, il y a les travailleurs et les travailleuses sociales, mais il y a aussi la police, il y a aussi la justice. Et ça, je crois que vraiment, aujourd'hui, plus que de légiférer, on a besoin, finalement, de former ces personnes. Et puis aussi, il faut une volonté politique, de l'argent, des financements pour pouvoir justement multiplier les relais, les espaces où ces personnes peuvent être en sécurité.
Mélanie, à l'évidence, ne l'était pas. Le drame s'est vraisemblablement produit vers 9h30 ce lundi 21 octobre. Les corps sont découverts une demi-heure après. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette maison ? On l'ignore et on n'aura jamais de réponse. Selon les éléments du dossier, on peut dire qu'il y a eu lutte entre Christophe et Mélanie, divers allées et venues aussi. Des appels au secours ont été entendus, ce qui rend improbable l'hypothèse d'une décision commune d'en finir avec la vie. Du coup, comment interpréter le mot d'adieu ? Enfin, tous les indices désignent Christophe comme seul responsable du carnage. Il n'aurait pas supporté l'idée d'une séparation. Mais comment a-t-il pu égorger sa femme ?
À l'annonce d'une rupture, un espoir subsiste. Et à un moment donné, et c'est souvent très difficile de déterminer à quel moment ça se produit, il y a un moment où la conscience arrive que c'est irrémédiable. Et cet espoir, au fond, disparaît. Et on passe de l'espoir au désespoir. Et c'est sans doute ce moment de désespoir intense qui va entraîner quelque chose de l'ordre de l'inéluctable.
Et le suicide de Christophe, comment l'expliquer ?
Dans les situations extrêmes, certaines personnes choisissent, au fond, de se suicider et de prendre avec elles la personne aimée. Et au fond, de tuer la personne, mais dans un suicide de, finalement accompagné. Et donc certainement qu'il y a là quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Et puis c'est mystérieux sans doute dans le fait que tuer quelqu'un d'autre, on est aux confins de l'expérience humaine.
Le nombre de féminicides en Suisse est stable depuis une dizaine d'années, n'empêche. D'après les statistiques européennes de 2019, les femmes meurent davantage sous les coups de leurs conjoints en Suisse qu'en Espagne, au Royaume-Uni ou qu'en Grèce. Quant au terme de féminicide, il ne figure toujours pas dans le code pénal. Un phénomène sans nom, existe-t-il vraiment ?
Ah, Didine, c'est fini le jeu.
Essaye.
Ça marche pas.
L'apéro, pour Mélanie et Christophe, c'était sacré. Alors, 2 ans après les faits, chacun s'emploie à préserver la tradition. On parle de tout, de rien, mais pas de ce qui fâche.
Alors, quand on est en famille, c'est vrai que c'est un peu le sujet. Il y a eu un moment où on en a parlé. Après, il y a eu une période où c'est qu'on n'en parlait plus parce que ben, nos mots pouvaient blesser justement les enfants. Parce que ben, il y a eu des mots. Voilà, nous, on est pour Mélanie contre Christophe, entre guillemets. Donc, même si on l'a eu aimé, Christophe, hein, je veux dire, quand même, cet homme, il a partagé notre vie pendant 20 ans, tout ça. Donc, voilà. Donc, et c'est ça qui est terrible.
On a créé des liens entre frères et sœurs qui sont beaucoup. On est beaucoup plus rapprochés qu'avant. Mais c'est vrai qu'on se sent nus, on se sent sans être protégés, sans avoir de l'amour. Tout sachant qu'on a nos tantes qui sont là et puis qu'ils essayent de faire le maximum pour essayer de nous protéger, de nous donner de l'amour. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'un parent.
On papote, on rigole, on se soutient les uns les autres. Mais les fantômes ne sont jamais très loin. Et les larmes non plus.